Chapitre 29. Edward Burne-Jones. Chérie la mélancolie. Chaque semaine, Madame Adjie faisait passer un enfant sur l'estrade pour qu'il livre, sur un sujet de son choix, une leçon à la place de la maîtresse. Quand ce fut le tour de Mona, elle apporta l'affiche de Georges Seurat, ce poster ornant sa chambre qui montrait une jeune femme assise sur un tabouret, de profil, la jambe gauche croisant celle de droite. Elle la punaisa au tableau et se lança dans la description de l'œuvre. Elle évoqua la facture pointilliste, soit une constellation de petites touches de peinture séparées, qui rendait son visage évanescent et faisait grésiller la peau et l'arrière-plan d'un chatoiement hypnotique. Elle contextualisa le tableau, évoquant Turner et la dilution de ses paysages, Manet, Monet et Cézanne. Et cette tendance cure les peintres à bannir l'ombre et les formes trop nettes au profit des couleurs pures et de la suggestion. Elle n'avait rien demandé, ni à ses parents ni à son grand-père, pour préparer ce travail. Elle avait simplement cherché, par déduction de tout ce qu'elle avait appris au Louvre et au musée d'Orsay, et grâce à quelques informations glanées sur Internet, à transmettre dans son langage ce qu'elle percevait de Seurat. « C'est du néo-impressionnisme, » dit-elle. C'est-à-dire que l'artiste est allé encore plus loin que les impressionnistes. Il a essayé de faire une peinture vraiment comme de la poussière. Elle racontait tout cela avec conviction, mais modestie. Puis, au fur et à mesure qu'elle parlait, elle eut l'impression qu'elle n'arrivait à rien. Pourquoi ? Parce qu'elle pensait à son dadé. Elle fit l'erreur de se dédoubler et de se juger à l'aune de son modèle absolu. Elle était à la fois sur l'estrade et à son pupitre dans la classe. Piégée par cette dissociation horriblement désagréable, son cerveau fut cadenassé par trois mots tragiques. « Je suis nul ». Les larmes lui montèrent aux yeux. Comme elle avait travaillé consciencieusement, son exposé se déroulait néanmoins de manière quasi automatique. « Georges Seurat, raconta-t-elle, mourut très jeune et fit peu d'œuvres. Elle expliquait aussi que le mélange des couleurs, au lieu d'être élaboré sur la planète, s'opérait dans l'œil de celui qui la regardait, grâce à la proximité entre toutes les touches. Fébrile, persuadée que personne ne comprenait rien à ses commentaires et qu'elle s'en mêlait dans ses phrases, elle se recroquevillait, trébucha sur un hoquet de pleurs, crut s'effondrer, décida de se battre. Elle persista. Franchit le cap. Dans la dernière ligne droite de son exposé, elle parvint à dire que Seurat rêvait que celui qui contemple son œuvre se sente lavé de l'intérieur, l'expression fit pouffer Diego, par la beauté crépitante de son pointillisme. Elle souligna enfin, dans un ultime effort et avec des mots simples, qu'il fallait bien que les peintres du XIXe siècle fassent ce genre d'œuvre, pleine de recherches sur les couleurs, pour concurrencer la photographie qui, à l'époque, était encore en noir et blanc. Voilà, c'était fini. Elle avait résisté à l'envie de s'interrompre au beau milieu de sa leçon. Mais elle continuait de penser à son grand-père et crut mesurer un écart infranchissable entre son savoir d'adulte à lui et ses propres capacités d'enfant. « je suis nul », s'essoufflait son esprit. Dans les rangs, tout le monde était sonné. Alors, avec une sobriété bienveillante, Madame Adjie exigea un triomphe. Des trombes d'applaudissements éclatèrent. L'adorable petit cœur pur de Mona, pétri d'humilité, ne savait même pas dire si ses hurrahs étaient lancés pour la consoler ou approuver son exceptionnelle prestation. Une prestation d'historienne de l'art. Quand elle retrouva son grand-père pour gagner le musée d'Orsay, Mona se refusa à lui raconter son succès face à la classe. Pourquoi ? Elle ne put se le formuler clairement, mais la raison était évidente. Sa propre autonomisation de l'esprit devant des œuvres qui auraient procuré bonheur et fierté à Henri soulevait en elle un sentiment inquiétant. Il lui était, en effet, pour le moment, inconcevable de s'imaginer exercer son jugement et jouir du spectacle d'un tableau sans son aïeul. Envisager cette autonomie, c'était envisager de grandir. Et envisager de grandir, c'était envisager l'adieu à la magie de l'enfance. Si on le lui avait demandé, Mona aurait juré à la terre entière et sur ce qu'il y a de plus beau à la surface de celle-ci, que jamais elle ne pourrait visiter un jour le moindre musée sans son héros, Dadé. Elle aurait été sincère. Et d'ailleurs, en lui serrant la main ce jour-là, elle semblait vouloir en faire le serment. Mais ses doigts se délièrent quand elle vit enfin, avec une ardeur mêlée d'effroi, la roue de la fortune, l'affligé chef-d'œuvre d'Edward Burne-Jones. C'était une scène imaginaire aux tonalités de rêve, d'une profonde étrangeté et peinte d'une touche lisse et continue. Une jeune femme en robe bleu-gris de profil, yeux clos, tête couverte d'un bonnet et pieds nus, faisait tourner d'une main calée contre un de ses rayons une très grande roue en bois sur la jante de laquelle se trouvaient accrochés deux hommes musculeux et munis d'un simple voile de pudeur. Il y en avait un troisième, mais tout en bas, et le cadrage ne laissait apparaître que ses épaules et son visage ornés d'une tiare de laurier. La composition était étonnante. Quoiqu'elle fût légèrement de biais et s'orientât vers la droite de la composition, la roue, occupant à elle seule un bon tiers de l'espace du tableau, était traitée en raccourci, de si près qu'on n'en voyait pas tout à fait l'ensemble des parties supérieures et inférieures tronquées. Elle avançait vers le point de vue du spectateur, et dans son mouvement, eût pu sortir du cadre pour le heurter. On reconnaissait ainsi un supplice classique, où des individus sont broyés par la révolution de la structure circulaire à laquelle ils sont fixés, généralement raidis et très cambrés. Cambrés, les personnages masculins de la toile l'étaient certes un peu, mais ils n'étaient en revanche pas raidis du tout. Ils dégageaient au contraire une espèce de sensualité par des jeux de déhanchés et la souplesse de leurs membres, tandis que leur expression traduisait un demi-sommeil. La principale figure, en position centrale sur la jante, portait une couronne dorée et tenait un sceptre. Il fallait enfin noter les curieuses proportions de l'ensemble. La femme sur la gauche était sans effet de perspective, deux fois plus grande environ que les hommes qu'elle suppliciait. Cela l'apparentait d'autant plus à une déesse qu'elle se hissait en contrapposto sur un support minéral aux fausses allures de socle. Par ailleurs, la roue s'avérait elle-même énorme par rapport au décor qu'elle semblait traverser. Celui-ci, on ne le voyait qu'à peine, dans d'infimes brèches de la composition. Sous un ciel métallique, s'étalait manifestement une cité antique, peu propice à la végétation. Mona trouva l'œuvre époustouflante. Elle en apprécia la méticulosité, la facture attentive aux carnations des corps ainsi qu'à leur perfection anatomique. Parmi les sillons et les reliefs déplissés et dédrapés, le regard de l'enfant voyageait comme on promène ses yeux sur un paysage vu du ciel. La voix de son grand-père l'attira de sa rêverie. Le sujet est mystérieux, puisque cette énigmatique géante soumet ces trois hommes, de haut en bas, un esclave, un roi et un poète, au supplice de la roue. La composition est si serrée qu'on distingue à peine la pierre usée d'un temple ou d'une fortification, peut-être d'une nécropole. Tout y est légèrement grisé, et cette atténuation des couleurs vide la scène de son sang, la propulse dans le monde trouble, voire indéchiffrable, des songes.
Alors ce sera impossible de dire ce que c'est, ce tableau ?
Dommage,
fit mine de regretter Mona.
On va essayer. Edward Burne-Jones, né en 1833, était un autodidacte qui rejoignit une très importante confrérie de peintres anglais nommée les Pré-Raphaélites. Je sais, ce mot est compliqué. Disons que ces artistes désiraient revenir à un idéal antérieur à Raphaël.
Le peintre de la Jeune Vierge et du Petit Jésus.
Et donc de la modernité.
Le terme déjà évoqué devant la gare Saint-Lazare de Monet intrigua Mona. Parce que Raphaël incarna dès le XVIe siècle la foi pionnière dans la connaissance de la nature et dans la technique, certains artistes des époques suivantes le vénéraient. Mais d'autres lui en voulaient aussi beaucoup. Selon les pré-raphaélites, il avait corrompu la création. Car Raphaël, si génial fut-il, avait éteint à leurs yeux l'ambition sacrée, mystique, qu'on prêtait à l'art au Moyen-Âge. Or, eux disaient vouloir revenir à un idéal spirituel et collectif.
D'accord.
Burne-Jones est d'une génération contemporaine de la reine Victoria et de la révolution industrielle en Angleterre. Une époque gonflée de confiance, obsédée par la réussite et la jouissance matérielle, où l'on croit qu'on va pouvoir progresser grâce au savoir et à la pensée rationnelle. On se tourne résolument vers l'avenir. Mais cette révolution industrielle cause aussi des dégâts, sème le désenchantement, la misère, l'égoïsme. Elle écarte la poésie, la fiction, jugée contraire à la marche du progrès. Burne-Jones, les pré-raphaélites anglais et plus généralement, tous ceux à travers l'Europe qu'on appelle les symbolistes, ne l'acceptent pas. Tandis que Mona répétait sans sortir le son les mots pré-raphaélites et symbolistes pour les faire siens, Henri pensa à tous les artistes imprégnés de visions hybrides, résolument immorales, de la mouvance dite décadente. Gustave Moreau et Odilon Redon en France, James Ensor et Fernand Knopf en Belgique, Max Klinger en Allemagne. Alors, par un charme synesthésique, l'alto furieux de Venus in First, interprété par le Velvet Underground, retentit en lui. Ce morceau rock et âpre, d'une profondeur irréelle, où l'intelligence humaine peine à descendre, il l'écoutait jadis en boucle, avec Colette. Rappelle-toi, Mona. Nous avons regardé beaucoup d'œuvres tournées vers le monde extérieur, figurant tantôt la ville en pleine mutation, comme chez Monet, tantôt les loisirs modernes, comme chez Degas, ou les paysages, comme chez Cézanne. C'est ici l'opposé. Burne-Jones peint un sentiment intérieur et recourt pour cela à une allégorie. Ici, avec sa roue qui tourne, une roue de la fortune, c'est-à-dire du destin, Burne-Jones concrétise l'idée ancestrale que le sort est capricieux. Même quand on croit être le plus puissant des princes ou le plus accompli des poètes, bonheur et talent sont soumis à la course du temps, car tout fuit, tout passe.
« Pantareille !»
s'exclama Mona, se souvenant de l'expression apprise dans les réserves du musée d'Orsay. Une fois de plus émerveillé par les qualités d'assimilation de l'enfant, Henri reprit sans rien en laisser voir. Monet suggérait la fuite implacable du temps physique et ses perpétuelles transformations de la nature et de la société. Burne-Jones parle plutôt, avec une peinture plus littéraire, du cours des destins individuels, des chemins lents et sinueux de la vie. Mona, un peu perdue dans ses explications, n'avait pas l'air très convaincue, mais opinait sagement. Ah, et voici une devinette qui va te plaire. Je t'ai dit que les pré-raphaélites se méfiaient de la Renaissance et voulaient retrouver les idéaux d'avant cette époque. Et pourtant, coupa Mona sur un ton d'évidence quasi prophétique, les corps sur la roue, ils ressemblent à celui de l'esclave qui mourait au Louvre, celui de Michel-Ange. Exactement, acquiesça Henri, qui dissimula là encore sa stupéfaction devant l'acuité et la mémoire visuelle de sa petite fille. Ces trois personnages masculins sont inspirés par l'art de Michel-Ange et véhiculent tout à la fois l'image de la souffrance et celle de la grâce, de la beauté. Ils sont peints comme si une lumière argentée caressait leur chair. En d'autres termes, Burne-Jones rend plaisante, attractive, séduisante cette allégorie des aléas de la fortune, alors que c'est une idée dramatique.
Pourquoi ?
Il évoque là un sentiment bien particulier qu'on ne connaît guère quand on est enfant et qui s'aiguise avec l'âge. Ce tableau, à rebours de toutes les valeurs matérialistes de la révolution industrielle où il faut être actif, pragmatique, efficace, fait la promotion de la mélancolie.
Tu m'avais déjà dit ce mot quand on était devant Michel-Ange.
Tu as décidément bonne mémoire. La mélancolie, c'est une tristesse dénuée de raisons précises et difficile à consoler. C'est une sensation plus vague et d'une douleur plus intense, aux limites de la folie parfois, où rien n'a plus de signification et où tout ce qui se construit pour l'avenir semble destiné à disparaître. Regarde la roue. Elle est cadrée de telle sorte qu'elle va précipiter hors des limites du tableau, c'est-à-dire hors du monde, chacun de ces humains. La mélancolie, c'est quand rien ne se passe d'autre que ce qui passe. Mona fronça les sourcils. Pour l'enfant sensible qu'elle était, l'idée que la tristesse soit attirante était une chose intrigante, sinon agréable. Henri le sentait bien. La mélancolie, expliqua-t-il, dépend d'un rien. Tandis que la lumière du soleil suscite la joie, un clair de lune suscite la mélancolie. Or ici, tout baigne dans une lumière argentée. Tandis qu'un visage vaillamment dressé inspire la force, une tête légèrement inclinée inspire la mélancolie. Or ici, la femme aux yeux clos tourne la sienne vers le sol. Tandis qu'un jardin verdi ou un bâtiment neuf exprime la vie, d'antiques architectures expriment la mélancolie. Or ici, le cadre est celui de vieilles pierres grises et lézardées. Cette ambiance nocturne, ce profil d'une figure penchée et ce décor minéral sont d'une indicible beauté, mais d'une beauté au parfum de tristesse. Et inversement, ce parfum de tristesse soulève des émotions grâce auxquelles on pénètre un peu les mystères de l'existence. Mona, écoute-moi. C'est formidable de profiter d'une belle vie. Mais être heureux fait crépiter les choses en surface. La mélancolie, parce qu'elle est une faille en nous-mêmes, ouvre une brèche sur le sens et le non-sens de l'univers, nous permet de regarder les abîmes, les profondeurs. Les artistes le savaient et la cultivaient pour créer leurs œuvres. Ce que dit ce tableau, ma chérie, c'est qu'il faut savoir chérir la mélancolie.
Et c'est pour ça que la dame est jolie aussi ?
En partie. Disons que c'était un stéréotype de l'époque auquel s'abreuvaient tous les poètes. La femme était fatale. Le raccourci était d'autant plus solide que ceux qui l'entretenaient se complaisaient dans leur position de victime. Alors oui, la déesse Fortune est jolie, comme tu dis, pour le meilleur et pour le pire. Et aussi parce que le pire, aux yeux de Burne-Jones, c'est ce qu'il y a de meilleur. Mona adorait tous ces virages et ces têtes à queue du verbe que sont les paradoxes. Henri, lui, les maniait en veillant à ce qu'il ne soit pas seulement une cheville pour la pensée. Mais en l'espèce, il songeait sincèrement que Burne-Jones et sa génération étaient pleinement sous le signe de cette figure de style. Cette bande éprouvait au fond une volupté contradictoire qu'il fallait bien qualifier de masochiste. « Tiens, se rappela Henri, le mot avait d'ailleurs été forgé d'après un contemporain des pré-raphaélites et de Burne-Jones. » Il s'agissait de l'écrivain Leopold von Zahrer-Mazor, auteur en 1870 d'un récit intitulé « La Vénus à la fourrure ». Et bon sang, c'est précisément ce roman qui avait inspiré au Velvet Underground le morceau de musique qui, quelques instants plus tôt, s'était imposé à son esprit. Ah, comment avait-il pu passer à côté de ça si longtemps ? Il prit ainsi conscience qu'il apprenait encore bien des choses à son âge, et que c'était merveilleux, à 4 fois 20 printemps.